Prédication du dimanche 9 avril 2017. Alors, je vais relire les mêmes versets que j'ai lus pour la présentation de l'enfant, parce qu'on va les méditer dans le message ce matin. Je vais les relire encore une fois. Marc 10, versets 13 à 16. On lui amena les petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Et il leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Prions Dieu. Notre bon Père Céleste, j'invoque ta bénédiction sur cette lecture de ta parole. Je prie que tu parles à chaque cœur à travers ce passage et que tu m'accordes à moi, ton serviteur, une onction du Saint-Esprit pour bien annoncer la parole de Dieu ce matin. Car je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Alors, ce matin, j'avais un choix difficile à faire parce que c'est un dimanche spécial pour deux raisons. C'est le dimanche des rameaux. Et qu'est-ce qu'on fait au dimanche des rameaux? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, oui, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, assis sur un ânon, comme Samuel a lu tout à l'heure dans le passage. Donc ça, c'est le dimanche des rameaux. En même temps, c'était pour présenter le petit enfant Sarah et Elisabeth au Seigneur. Donc je voulais un message qui est propice pour les deux choses en même temps. Donc combiner ces choses ensemble? Mais le Seigneur m'a donné une inspiration, j'ai pensé justement à ce passage, parce qu'évidemment c'est un passage qui parle des petits-enfants. En même temps, Jésus mentionne deux fois le royaume de Dieu. Mais là où il y a un royaume, il y a un roi, n'est-ce pas? Alors qui est le roi du royaume de Dieu? On a chanté celui ce matin, qui est-il? C'est Jésus. C'est Jésus, donc c'est Jésus, le roi du royaume de Dieu, qui est mis en scène avec les petits-enfants. Et dans très très peu de temps, il va faire son entrée triomphale à Jérusalem, dans très peu de temps après cet incident. Parce que cet incident, c'était en Marc chapitre 10, et tout de suite au début de l'évangile de Marc chapitre 11, nous lisons un récit selon Marc de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc c'est le roi qui va entrer triomphalement, qui rencontre les petits-enfants. Et j'ai dit, bon, ça c'est un texte pour combiner les deux thèmes ensemble. Et ce n'est pas un texte très long, ça prend peut-être quelques secondes pour lire tout ça, mais dans les peu de lignes qu'on a déjà lues, déjà, Jésus, indirectement, il donne beaucoup d'instructions, beaucoup d'enseignements. Et on peut tirer des enseignements pour corriger quelques-unes de nos erreurs qui sont très répandues, très communes aujourd'hui. Et déjà, j'ai pensé à trois erreurs qui sont corrigées par ce petit texte si court. Si petit, et pourtant ça corrige trois grandes erreurs qui sont communes aujourd'hui, et ça nous aide à mieux comprendre comment on entre dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Alors, d'abord un petit mot sur le royaume de Dieu. Comme Jésus est le roi du royaume de Dieu, c'est lui qui peut nous laisser entrer dans son royaume. Mais comment y entrer? Il a donné une astuce quand il a parlé avec un chef religieux, Nicodème. Il a dit, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu sans même pas lui dire entrer. On ne peut même pas le voir si on ne naît pas de nouveau. Et donc, ça passe par une nouvelle naissance. Bon, je ne vais pas expliquer ça maintenant, mais plus tard, à la fin du message, je vais expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. Mais c'est le roi lui-même qui dit, pour entrer dans mon royaume, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Si c'est le roi, il sait de quoi il parle. Donc, on va voir ça tout à la fin. Mais d'abord, on va voir ces trois erreurs communes qui sont corrigées par ces petites lignes très succinctes. Première erreur, c'est l'erreur de dire que Dieu n'a pas le temps pour les gens ordinaires. Des fois, il nous arrive de rencontrer des gens qui ont des problèmes dans la vie. Ça peut être des problèmes de santé, de famille, de travail, n'importe quel problème. Et on dit à ces personnes, mais pourquoi pas prier Dieu pour demander... sa solution pour demander qu'il intervienne, qu'il nous aide à corriger les problèmes ou qu'il comble les lacunes ou qu'il pourvoie ce qu'il faut pour ça. Et souvent les gens disent, mais Mais Dieu, il est tellement occupé à gérer son univers. Tu penses vraiment que Dieu pense à ça? Qui s'intéresse à moi, à mes petits bobos? Il est occupé à gérer son univers. Et donc, les gens sont un peu incrédules à ce sujet. Ils pensent que Jésus, il n'a pas le temps pour ça. Mais, il a le temps pour les petits-enfants et pour les bébés. Vous dites, comment est-ce que je sais que Dieu s'occupe des enfants, des petits-bébés? Parce qu'on voit l'attitude de Dieu à travers Jésus. Si on veut connaître quelle est l'attitude de Dieu, il faut regarder la vie de Jésus. Pourquoi ça? Parce que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Et il a dit aussi, Jean 14, 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Et puis plus loin dans la Bible, Hébreux chapitre 1, verset 3, le Fils, c'est-à-dire Jésus, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et ça veut dire que si on veut voir vraiment quelle est l'attitude de Dieu, qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il s'occupe de nous, de nos petits problèmes de tous les jours, il faut voir ça à travers la vie de Jésus. Parce que Jésus, il montre ce que le Père pense. Il est en le Père et le Père est en lui. Une fois, il y avait un pasteur qui avait une femme dans sa congrégation qui disait, j'ai vraiment peur de Dieu. Je crains Dieu, j'ai peur de lui. Et le pasteur très sagement posait la question, mais est-ce que tu as peur de Jésus? Ah non, non, Jésus, il est gentil et bon et débonnaire. Eh bien, mais Jésus, c'est Dieu. Le Père est en lui, lui, il est dans le Père, et celui qui a vu le Père. Ah bon, ah oui, c'est vrai. Et sa peur de Dieu a disparu. Parce qu'on voit l'attitude de Dieu à travers Jésus. Alors, les petits-enfants, pour voir quelle est l'attitude de Dieu envers les petits-enfants, il suffit de regarder comment Jésus a traité les petits-enfants. Mais il faut dire que les disciples n'ont rien compris. Parce que les disciples, ils avaient cette idée du monde que les gens importants, ils ne s'occupent que des choses importantes. Vous savez, les gens qui sont importants, qui sont haut élevés, les PDG, les chefs d'État, les membres du gouvernement, les gens qui ont beaucoup de pouvoir, ils s'occupent des choses importantes, mais ils n'ont pas le temps de passer avec les bébés, les petits-enfants. Ils n'ont pas le temps. Et les disciples, ils pensaient rendre service à Jésus, parce qu'après Jésus, il était très très occupé. Il était toujours en train de faire des voyages, de prêcher des messages, de chasser des démons, de guérir des gens. Jour après jour après jour, il n'avait presque pas le temps de manger, presque pas le temps de se reposer. Alors Jésus, certainement, si jamais il y avait un homme occupé, c'est Jésus. Alors il n'a pas le temps pour perdre avec les bébés, les petits-enfants. Alors allez-vous-en. Le Seigneur, il n'a pas le temps pour ça. Mais Jésus, il ne pensait pas la même chose que ses disciples. Même, il les a repris. Et par extension, si Dieu a même le temps de s'occuper des petits-enfants et des bébés, ça veut dire qu'il a le temps de s'occuper de nous. Chacun de nous, chacune de nous, est important pour Dieu. Tous les petits détails, les petits bobos de notre vie, ça ne passe pas inaperçu de Dieu. Il n'est pas tellement occupé à gérer son univers qu'il n'ait pas le temps pour chacun de vous ici ce matin. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Il dit aux gens, vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ça c'est Jésus qui dit ça. Si Dieu a une connaissance tellement illimitée qu'il a le temps de compter nos cheveux sur nos têtes, eh bien il peut s'occuper de nos petits bobos. Il a le temps de passer avec nous, comme Jésus avait le temps de passer avec les petits enfants. Il les a pris dans ses bras, il les a bénis. Dieu, il a le temps de vous bénir. Il n'est pas trop occupé. Deuxième erreur que ça corrige, c'est l'erreur de dire, il faut baptiser les bébés pour qu'ils aient la vie éternelle. Pour faire comprendre ça, je vous raconte un petit peu l'histoire du baptême. Le baptême, ça a commencé avec Jean-Baptiste, mais même avant Jean-Baptiste, il y avait beaucoup de lavages cérémoniels, qui étaient pratiqués par les Juifs. Quelques-uns de ces lavages étaient déjà écrits dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Mais il y en avait d'autres qui étaient rajoutés au fil des siècles. d'autres qui étaient rajoutés. Et quelques siècles avant Jésus-Christ, il y avait aussi un lavage qui était ajouté par les nouveaux convertis. Quand il y avait des païens qui suivaient autrefois plusieurs dieux et ils se convertissaient au judaïsme et ils ne craignaient que le seul Dieu d'Israël, le grand Dieu créateur, on les faisait passer par une sorte de baptême, une sorte de lavage, pour indiquer symboliquement qu'ils étaient lavés des souliers du paganisme. Donc ça a été inventé dans les siècles juste avant Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, il a pris cette même habitude, seulement il a donné une nouvelle tournure. Parce qu'au lieu de baptiser seulement les nouveaux convertis qui venaient dans le judaïsme, il baptisait tout le monde. Les juifs chevronnés qui connaissaient Dieu depuis des années, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils constataient que tout le monde était pécheur et tout le monde avait besoin d'être lavé de ses péchés. Qu'ils connaissent le seul Dieu d'Israël ou qu'ils soient dans le paganisme, peu importe, tout le monde avait besoin d'être lavé de ses péchés. Donc ils baptisaient tout le monde. Et on comprend que les chefs religieux ont résisté un peu parce que ça les humiliait un petit peu. Ils avaient l'impression que s'ils étaient baptisés par Jean, ils se mettaient au même niveau que les proselytes et les nouveaux convertis. Et donc ça offensait leur orgueil, donc ils ne se faisaient pas baptiser. Mais tous les autres, même les soldats romains, même les ouvriers, même les juifs fervents, pieux, qui avaient pratiqué le judaïsme depuis des années, tout le monde se faisait baptiser par lui, en confessant le péché. Bien, Jésus et ses disciples ont repris cette coutume de Jean-Baptiste, ils l'ont fait aussi, mais ils ont ajouté une nouvelle dimension. Ce n'était pas seulement pour se repentir et pour être lavé des péchés, mais c'était aussi pour proclamer la foi à Jésus comme le Messie, le Sauveur du monde. On s'identifiait avec Jésus, et Paul, dans le 6e chapitre de Romains, ajoutait que quand on est immergé dans l'eau, on est enseveli avec Jésus. Quand on sort de l'eau, on ressuscite pour marcher en nouveauté de vie avec lui. Donc tout est symbolique. On s'associe avec Jésus dans sa mort pour nos péchés et sa résurrection. Donc ça, c'était le sens du baptême. Donc c'était quelque part une proclamation de la foi. Une proclamation de foi qui était bien sous-entendu réservée seulement pour les adultes ou bien s'il y avait des enfants, c'était des enfants assez âgés pour savoir exactement ce qu'ils faisaient, pour prendre ça sérieusement. C'était pas les petits bébés qui ne savaient pas ce qu'on leur faisait. Mais à travers les siècles, il y avait une dérive petit à petit dans le sens, dans la compréhension du sens du baptême. Et petit à petit, à travers les siècles, le baptême, au lieu d'être une proclamation de notre repentance et notre foi en Jésus, est devenu une sorte de rite mystique pour nous introduire dans le royaume de Dieu. Et si on n'avait pas ça, on n'était pas sauvé, on n'avait pas la vie éternelle. Donc c'était un décalage, c'était une dérive, c'était pas le sens original. Et donc les parents commençaient à paniquer. Ils disaient, mais si mon enfant meurt jeune avant d'être baptisé, il va parler au ciel. Alors il y avait une pression populaire très forte sur le clergé de baptiser les enfants de plus en plus jeunes, qui aboutit à une pratique aujourd'hui de baptiser les bébés. Mais le mot baptême avait complètement été dénaturé, ça n'avait plus le sens original. Alors il faut constater que à l'époque de Jésus, on n'est pas encore là, on n'est pas dans ces temps-là. On est dans le temps où seulement les personnes conscientes, les adultes et les grands enfants se font baptiser. Donc le mot pour petits-enfants, c'est paidion en grec. Paidia, c'est le pluriel, paidia. Ils ont amené paidia. De là, on a le mot pédiatre en français. Les pédiatres s'occupent de qui? Les enfants, surtout les petits-enfants. Et donc paidion, ça veut dire enfant, petit enfant ou bébé, des fois un grand enfant, mais beaucoup, beaucoup plus souvent, c'est les petits enfants et les bébés. Donc je crois que la traduction est bonne. Donc si ce sont des petits enfants et des bébés, ils sont tous non baptisés. Tous les enfants que Jésus a pris dans ses bras, ils étaient non baptisés. Parce qu'on ne faisait pas le baptême pour les bébés à cette époque-là. Alors qu'est-ce que Jésus dit? Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ah, c'est une phrase importante. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Est-ce qu'on peut imaginer le Seigneur Jésus quand un petit bébé meurt jeune et son esprit se présente devant la porte du ciel? Est-ce qu'on peut imaginer ce même Jésus disant, non, Tu peux pas entrer sur, chez moi parce que tu n'as pas eu quelques gouttes d'eau sur ta tête de ton vivant. Mais c'est absurde. On a fait de la doctrine du baptême quelque chose de monstrueux. C'est ridicule. Le même Jésus qui avait dit « Le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent » ne va pas refuser les petits-enfants. C'est justement pour eux, le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous, au lieu de baptiser, entre guillemets, parce que ce n'est pas un vrai baptême, au lieu de baptiser les petits-enfants, on les présente à Dieu. Et on suit une tradition qu'on trouve beaucoup dans la Bible. Le petit Samuel, dans l'Ancien Testament, il était présenté à Dieu par sa mère Hannah. Jésus lui-même était présenté à Dieu par ses parents. Et c'était indiqué dans la Bible, dans la Torah, la première partie de l'Ancien Testament, de présenter les enfants à Dieu avec des sacrifices chaque fois qu'il y avait une naissance dans une famille. Donc, en présentant les enfants à Dieu, on suit une tradition qui est très ancienne dans la Bible, mais ce n'est pas un baptême, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un baptême. Parce que le bébé, il ne sait pas ce qui se passe. Ce sont les parents qui font ça. Donc, ce n'est pas une démarche du bébé, c'est une démarche des parents. D'abord pour redonner cet enfant au Seigneur, et ensuite pour s'engager, pour l'élever dans la connaissance du Seigneur. C'est ça le sens de présentation. Le baptême, ce sera plus tard, si l'enfant décide de mettre sa foi et sa confiance en Jésus comme son sauveur, alors il peut être baptisé. Donc, ça c'est la deuxième erreur. La troisième erreur que ce passage peut corriger, c'est l'erreur de dire il faut être très très bon pour pouvoir entrer dans la vie éternelle. Beaucoup de gens pensent comme ça. Il faut être très bon pour entrer dans la vie éternelle. Mais j'ai envie de poser une question. Mais bon, à quel point, à quel niveau? Combien est-ce qu'il faut être bon? Ah, ça c'est une question gênante, parce que vous voyez, Jésus, il met la barre très haute. Il met la barre très haute. Par exemple, Jésus dit qu'il faut aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, notre force. Est-ce que vous avez toujours aimé Dieu de tout votre cœur, votre âme, votre pensée, votre force pendant toute votre vie sans jamais défaillir? Jamais, jamais, jamais. Je vous pose la question. Jésus a dit, vous avez entendu autrefois qu'il ne fallait pas commettre de meurtre, mais moi je vous dis que même si vous avez de la haine dans votre cœur pour votre frère, ou même si vous l'insultez par des noms qui ne sont pas très complémentaires, déjà vous êtes en danger de jugement. Qui n'a jamais fait cela dans toute sa vie? Je pense qu'aucun de nous dans cette salle n'a jamais commis de meurtre, n'est-ce pas? Mais on avait peut-être des pensées meurtrières dans la tête, des fois. Jésus a dit, il ne suffit pas d'abstenir de l'adultère. Même si vous convoitez une femme dans votre cœur, c'est déjà comme un adultère aux yeux de Dieu. Qui n'a jamais fait ça? Il dit aussi qu'il faut, et ça c'est vraiment difficile, ça nous brosse non pas dans le sens des poids, mais contre les poids, c'est la prochaine chose. On doit aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous maltraitent. Vous avez toujours fait ça pendant toute votre vie sans jamais, jamais défaillir? Eh bien, si vous l'avez fait, vous êtes meilleur que moi. Et je pense qu'on va tous constater que personne n'est assez bon pour entrer au ciel, personne sur la terre. D'ailleurs, c'est pourquoi Romains 3, 23 nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors s'il fallait entrer dans la vie éternelle par notre propre bonté, nous serions tous défaillants. Toutes nos vies seraient vouées à l'échec. Or, Jésus nous propose une toute autre formule pour entrer dans le royaume de Dieu. Une toute autre formule. Parce qu'il a dit dans ce passage, « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Donc, c'est une phrase négative, mais on peut retourner dans le sens positif. Ça veut dire que si on veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut y entrer comme un petit enfant. Alors, qu'entend-il par cela? En quelque sorte, Jésus semble être en train de dire il faut un comportement enfantin à certains égards, sans pour autant être infantile. Vous comprenez la différence? On peut avoir une attitude enfantin sans être infantile. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que j'entends par cela? Alors, j'ai réfléchi aux bonnes qualités des petits-enfants. des bonnes qualités. Il y a d'abord une certaine authenticité. Ils ne se cachent pas, ils ne sont pas hypocrites, ils ne portent pas des masques. On connaît leurs sentiments tout de suite. S'ils sont tristes, ils pleurent. S'ils sont en colère, ils le montrent. S'ils sont joyeux, ils le montrent aussi. Ils ne sont pas comme les adultes, calculants, portant des masques, prétendant d'être très amicaux alors qu'ils ont la haine dans leur cœur, ou d'autres choses, prétendant de faire des choses par la bonté et la générosité, quand en fait, ils calculent que si je fais ça pour un tel, il va faire quelque chose pour moi, qui va m'aider à me hisser, de grimper les échelons. Et donc, les adultes sont parfois très compliqués. Les enfants sont spontanés. Ils jouent quatre sur table, ils sont transparents. Les enfants montrent de l'humilité. Je parle des enfants au moins qui n'ont pas été endurcis ou gâtés par les choses de ce monde. Parce que des fois, même les jeunes enfants, parfois, on remarque un certain endurcissement précoce qui est très dommage. Mais si les enfants ne sont pas pourris, gâtés par ce monde, ils sont authentiques, ils ne sont pas compliqués, ils sont humbles. Ils dépendent des autres, ils n'ont pas d'air de supériorité. Et toutes ces choses, si on est comme ça, ça nous pousse à jouer quatre sur table avec Dieu, à être dans la transparence. À ne pas vouloir nous présenter plus beau que la réalité, parce que souvent les gens essayent de faire ça en camouflant, en cachant les points faibles, les défauts, les choses négatives dans la vie, et en mettant en avant tous les points forts. Mais Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on soit simplement franc et direct et transparent avec lui, qu'on joue quatre sur table, qu'on ne vienne pas à Dieu en prétendant être grand chose, le dernier cri ou quelque chose qui est très pieux, très saint. Ça n'impressionne pas Dieu. Il nous connaît trop bien. Il connaît tous nos défauts. Il veut qu'on dise les défauts, non pas pour l'informer parce qu'il le connaît déjà, mais pour montrer qu'il y ait une prise de conscience en nous. Et donc, il faut venir humblement en confessant nos péchés, en demandant le pardon, au lieu de venir avec vaine prétention. Une autre qualité des petits-enfants, c'est la capacité de croire facilement. Un petit-enfant qui n'est pas encore gâté par le monde, tu peux lui faire croire presque n'importe quoi. Des fois, c'est une vulnérabilité, parce que les jeunes enfants sont vulnérables. S'il y a quelqu'un sans scrupule, il peut faire aux petits-enfants presque n'importe quoi. Il peut être méchant avec les petits-enfants. Il peut abuser cette confiance naturelle. Mais si c'est une confiance vis-à-vis des personnes qui veulent son bien, qui veulent la bénir, qui veulent la conduire vers la maturité, alors dans ce cas-là, la confiance n'est pas mal placée, comme dans les parents qui veulent bien pour leur enfant, qui essaient de l'élever dans la connaissance du Seigneur. Alors là, cette simplicité, cette facilité de croire, c'est un atout. C'est pas un défaut, mais c'est un atout. Et Dieu veut que tout le monde soit comme ça vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son Fils Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il veut que nous croyions. Vous remarquez, le Seigneur Jésus, il n'a jamais reproché à des disciples en disant « Vous n'avez pas prêché assez aujourd'hui. Vous n'avez pas travaillé assez dur. Vous n'avez pas guéri assez de gens. » Il n'a jamais, jamais dit ça. Mais il a dit des fois, « Oh vous, de peu de foi, pourquoi ne croyez-vous pas ?» Ce qui plaît au cœur de notre Dieu, c'est qu'on croit. C'est qu'on mette notre foi et notre confiance en lui. Et surtout, surtout, qu'on mette notre confiance en lui au sujet de notre salut, parce qu'il a pourvu tout ce qu'il nous faut pour le salut, pour être pardonné, sauvé de nos péchés, et pour entrer dans son royaume, pour recevoir la vie éternelle. Il a pourvu tout ça pour nous. Il veut que nous croyons sans être compliqués, comme un philosophe, sans tourner les choses en rond, sans raisonner sans cesse, pour jamais arriver à une conviction de la vérité. Non, il veut une simplicité de l'enfant, simplement pour accepter et pour croire en son plan. Donc, quand on fait ça, c'est là où on expérimente la nouvelle naissance. Parce que Dieu fait ce miracle dans notre cœur, il transforme notre vie et on devient comme une nouvelle personne, pleine de confiance, pleine de joie, pleine de paix, parce qu'on sait que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes acceptés par Dieu, et ça transforme toute notre façon de voir la vie. C'est ça, la nouvelle naissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je vous raconte une petite histoire. Il y avait une fois un évangéliste qui faisait une campagne pour annoncer l'évangile dans une ville et pour inviter les gens à donner le cœur au Seigneur, à venir au Seigneur. Et quelqu'un lui demande, hier soir, il y avait combien de personnes qui sont venues inviter le Seigneur Jésus d'être leur sauveur, inviter dans leur cœur? Il a dit, il y avait 2 personnes et demie. Ah bon? 2 personnes et demie? Mais ça, c'est absurde. Qu'est-ce que ça veut dire, 2 personnes et demie? Vous entendez pas ça, 2 adultes et 1 enfant? Il a dit, non, c'est pas ça. J'entends 2 enfants et 1 adulte. Parce que l'adulte avait déjà gaspillé la moitié de sa vie. Donc, c'était 2 personnes et demie. Donc, Dieu veut qu'on vienne à lui et plus jeune, mieux c'est. Mais il n'est jamais trop tard si on a ce désir de venir à Dieu. Même un vieillard peut venir à Dieu et croire en Jésus pour le salut. Alors, la question importante aujourd'hui, êtes-vous déjà entré dans le royaume de Dieu comme un petit enfant? Ou est-ce que vous avez essayé d'y entrer par un autre moyen? En faisant des bonnes œuvres, en étant gentil envers tout le monde, en respectant la loi, etc. Vous avez essayé d'entrer par un autre chemin. Ça ne marchera pas. Parce que le roi du royaume de Dieu a dit, si vous n'y entrez pas comme un petit enfant, vous n'y entrez pas, vous n'y entrerez pas du tout. Donc, je vous invite tous de venir comme un petit enfant. Si vous avez des questions après le culte, à ce sujet, on peut vous expliquer mieux comment ça se fait. Mais nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ce passage de ta parole. Merci pour tout ce que tu nous enseignes sur les petits-enfants, mais pas seulement sur les petits-enfants, mais sur le royaume de Dieu. Parce que Jésus, toi qui es entré à Jérusalem assis sur un anneau, c'est toi qui es le roi du royaume de Dieu. C'est toi qui détermine qui peut entrer, qui ne peut pas entrer. Et toi-même, tu nous as dit qu'il faut y entrer comme un petit-enfant. Aide-nous tous à avoir cette attitude, que personne ne se fasse pas exclure en refusant ton invitation gracieuse. Car je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.